chapitre de la Bible. Est-ce que tu sais combien il y a de versets dedans, Monique? Plus de 150. C'est donc le plus long livre de la Bible et peut-être serez-vous déçus d'apprendre que je ne vais pas le lire en entier. Mais je vous propose d'écouter la lecture des 16 premiers versets. Donc, psaume 119, versets 1 à 16. Heureuses les personnes qui se conduisent de manière intègre, qui mènent leur vie selon l'enseignement du Seigneur. Heureux ceux qui suivent ses instructions et le cherchent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucune injustice, mais vivent comme Dieu le demande. Toi, Seigneur, tu as révélé ce que tu exiges pour qu'on le respecte avec soin. Oui, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors, je n'éprouverai aucune honte en considérant tous tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Je m'appliquerai à faire ta volonté, ne cesse jamais de me soutenir. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure ? En observant ce que tu dis, Seigneur. De tout mon cœur, je te cherche. Ne me laisse pas dévier de ce que tu as commandé. Dans mon cœur, je conserve ce que tu as dit pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit, comme si j'avais une immense richesse. Je veux réfléchir à ce que tu exiges et bien regarder le chemin que tu me traces. Je me délecte de suivre tes directives. Je n'oublie pas ta parole. Nous nous arrêtons ici pour notre lecture. Le psaume 119 est particulier dans la Bible. Particulier parce que c'est le livre, c'est le chapitre le plus long de la Bible. Mais il y a quelque chose de remarquable aussi qui nous échappe, à nous qui lisons la Bible en français, mais c'est que en hébreu, dans la langue dans laquelle il a été écrit, il est particulier. C'est un poème acrostiche, c'est-à-dire que chaque paragraphe commence par une lettre différente, l'alphabet dans l'ordre. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à faire ça, à faire un texte, un poème avec différentes lettres de l'alphabet, comme ça, sur la première. C'est un exercice. Et là, l'auteur du psaume l'a fait, et ça va même plus loin, puisque dans chaque paragraphe, il y a 8 vers, et chacun des 8 vers commence avec la même lettre, la lettre de l'alphabet, et comme ça pour passer tout l'alphabet hébreu. Un vrai travail de rédaction. C'est de la poésie. Et c'est intéressant de voir ça, parce que quand je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimez dans la Bible, naturellement, chacun est allé vers son récit préféré, son histoire préférée. Mais dans la Bible, il n'y a pas que des histoires, il n'y a pas que des récits, il y a aussi de la poésie. Et nous en avons un exemple ici. Ce chapitre, ce psaume, ce psaume parle de la parole de Dieu. Et elle est décrite de long en large, avec de nombreux synonymes. Rien que dans les 16 versets que nous avons lus, nous avons parlé des instructions de Dieu, de sa volonté, de ses commandements, de ses décisions, de ses ordres, de ses directives, de sa parole, ce qu'il a dit, de ce qu'il demande, de ce qu'il exige. Tout ça, ce sont des synonymes pour parler de la même chose, de la Bible. Alors, l'auteur, au moment où il écrit, n'a pas la Bible que nous avons. Il a moins que nous. Il a la loi, le Pentateuque. Mais nous reconnaissons toute la Bible que nous avons comme parole de Dieu. Et nous comprenons que ce poème parle de cette parole de Dieu complète. Et je crois que ce poème, ce psaume, est une déclaration d'amour de celui qui l'a écrit, le psalmiste, pour la parole de Dieu. Il ne cesse de parler de ses bienfaits, de ce qu'elle produit de bon pour lui. Je le disais, c'est un texte particulier, c'est de la poésie, et on est peut-être peu à l'aise pour lire ce genre de texte. Je ne sais pas vous, mais quand je lis ce texte, en plus si j'ai une lecture biblique du jour un peu longue, j'ai tendance à le lire vite et j'ai l'impression que ça se répète. On a l'habitude, on aime bien quand on lit des exposés structurés, où on voit le déroulement point par point, des choses faciles à retenir et qu'on peut réciter. On aime aussi les récits qui ont un début et une fin, où on voit Dieu agir et on peut en tirer des leçons. Avec la poésie, c'est plus compliqué de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et là, avec ce poème qui parle de la parole de Dieu, on est à l'opposé d'un cours de théologie systématique qui parlerait de la parole de Dieu, où point par point, on aborderait les différentes caractéristiques de la parole de Dieu. Ici, on en parle de manière spontanée et enthousiaste. Et ce qui est intéressant, c'est se laisser gagner par cet enthousiasme, se laisser gagner par le mouvement pour emprunter, nous aussi, ce mouvement. Je crois que c'est une première leçon qu'on peut tirer de ce psaume. C'est que dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec la Bible, tout ne passe pas par la tête et l'intellect. Il y a aussi une place pour la beauté, il y a aussi une place pour ce qu'on ressent. Et en mettant des textes comme cela dans la Bible, Dieu veut faire vibrer cette corde en nous et nous parler de cette façon. Comment aborder ce texte un peu répétitif, tout en étant toujours différent? Je pense que c'est un texte qui gagne à être médité lentement, à essayer de repérer les nuances d'un vers à l'autre, d'un synonyme à l'autre. Mais on peut aussi voir dans ce texte qu'il y a des grandes lignes, des choses qui reviennent, et si on arrive à les identifier, on peut être attentif en lisant le texte, justement, quelles sont les nuances, les petites touches que les différents versets viennent ajouter à ces grandes lignes. C'est ce que je propose de faire avec vous ce matin, mais avant de vraiment plonger dans le texte qui se déroule, trois versets. Les trois premiers versets qu'il faut relever, qui sont notables. Ils sont notables, ils sont à part, comme une introduction au poème. C'est une bénédiction. Heureux sont-ils, une bénédiction prononcée sur ceux qui se conduisent de manière intègre, qui mènent une vie selon l'enseignement du Seigneur, qui suivent les instructions du Seigneur, qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Elle nous rappelle ces bénédictions, ces béatitudes qu'on trouve au début du sermon sur la montagne. Ces personnes sont heureuses parce qu'elles ne commettent pas, elles ne commettent aucune injustice et parce qu'elles vivent comme Dieu le demande. Voilà deux belles directions à suivre dans la vie. Ne commettre aucune injustice et vivre comme Dieu le demande. Quel intérêt y a-t-il à vivre ainsi ? À vivre en ne commettant aucune injustice et à faire plaisir à Dieu. Je crois que en ne commettant aucune injustice, on s'épargne pas mal de problèmes avec la justice. L'injustice, c'est tout ce qui n'est pas juste. On peut être injuste quand on fait des préférences de l'un par rapport à l'autre. Hein. Les enfants disent souvent « c'est pas juste ». Mais on peut être injuste aussi dans le domaine moral, dans le domaine relationnel. Si prendre des libertés avec la justice, avec l'intégrité, peut apporter des avantages ponctuels, généralement on finit toujours par être découvert. Et alors on est traîné devant la justice et on vit cette honte. Et les journaux sont pleins d'affaires moches, d'un tel qu'on croyait vraiment bien et qui avait une affaire cachée. Si vous ouvrez le journal aujourd'hui, vous en trouverez. Ne commettre aucune injustice et vivre comme Dieu le demande. Là, il y a peut-être moins besoin de disserter. Quand on vit comme Dieu le demande, on plaît à Dieu. Et en quelque sorte, le programme de ce psaume, le programme de la parole de Dieu, c'est de nous apprendre à être bien avec Dieu et être bien avec les hommes. Et dans la sagesse biblique, les deux sont liés. Si on fait ce que Dieu demande, on est bien avec les hommes. Et quelque part, c'est logique. Dans les récits préférés qu'on a cités tout à l'heure, il y avait le récit des origines, le récit de la création. Dieu, le Créateur, sait ce qui est bon pour l'homme. Sait comment l'homme doit se comporter pour être heureux, pour ne pas forcer la machine, la mettre en tension, mais vivre bien. Et si on suit le mode d'emploi, alors il y a toutes les chances de notre côté pour qu'on soit heureux. Comment atteindre ces objectifs ? Il y a ces quatre directions. Se conduire de manière intègre, mener une vie selon l'enseignement du Seigneur, suivre ses instructions et le chercher de tout son cœur. Voilà ces trois versets qui ouvrent, qui font une introduction. Je vous propose de plonger dans la suite. La suite, à partir du verset 4, et non seulement jusqu'au verset 16, mais plus loin dans le psaume, on y retrouve, j'ai envie de dire un dialogue, ce n'est pas un dialogue parce que c'est un monologue du psalmiste, mais qui s'adresse tantôt à la deuxième personne du singulier, Seigneur, Dieu, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, voici ce que tu fais avec ta parole. Tantôt à la première personne du singulier, je fais ceci, j'écoute ta parole. Et on voit, même s'il y en a un seul qui parle, on voit dans le texte une relation. La lecture de la parole, l'expérience qu'a le psalmiste de la parole de Dieu, c'est une relation où il voit Dieu agir, apporter des choses, et où lui agit, et les deux vont de concert. Pensez-y, quand vous relirez ce texte, cette alternance et cette relation vivante qui est décrite. Quelques grandes lignes qui sortent de ce texte. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que la mise en pratique de la parole de Dieu est très présente. Verset 1, « Heureuses les personnes qui mènent une vie selon l'enseignement du Seigneur. » Verset 2, « Heureux ceux qui suivent ces instructions. » Verset 3, « Qui vivent comme Dieu le demande. » Verset 8, « Je veux faire ta volonté. » Verset 14, « Suivre tes ordres me réjouit, etc. » La parole de Dieu, ses instructions sont là pour être suivies. Et il y a ce verset 4 qui est un peu un verset programmatique. « Toi, Seigneur, tu as révélé ce que tu exiges pour qu'on le suive avec soin. » Le but de la parole de Dieu, le but de sa loi, c'est d'être suivi, d'être mis en pratique. Ce n'est pas un texte qui est là pour être étudié pour le plaisir intellectuel, pour le plaisir de la connaissance. Il y a du plaisir à l'étudier, mais ce n'est pas le but de ce texte. Sans mise en action, sans mise en pratique, ce texte n'a pas de valeur. Et pour aller plus loin, on n'a pas vraiment le choix de l'appliquer ou parle ou pas. Dans ce texte, on parle d'ordre, d'exigence, ce que tu exiges au verset 4, tes commandements au verset 6, ce que tu exiges à nouveau, verset 15. Ce ne sont pas un catalogue de conseils, de bonnes idées dans lequel on peut piocher à droite, à gauche. On doit obéir. Mais ça va même plus loin. Il y a ces deux paroles, je ne sais pas si elles vous ont frappé. Moi, elles m'ont frappé à la lecture. Verset 14, « Suivre tes ordres me réjouit. » Verset 16, « Je me délecte de suivre tes directives. » Ces déclarations sont surprenantes. Des ordres, des directives, ce sont des contraintes. Qui se réjouit d'être contraint? Si j'ai bien retenu les livres que j'ai lus sur l'éducation des enfants et leur développement psychologique, j'ai retenu qu'il y avait besoin d'avoir un cadre pour être rassuré. Connaître les limites est rassurant pour les enfants. Et j'ai l'impression que c'est rassurant pour tout le monde, les adultes aussi. C'est ce que j'ai l'impression de retrouver en ce moment, dans ce que nous vivons avec la gestion sanitaire. En ces temps d'épidémie, avoir des règles qui changent tout le temps, qui sont peu claires, c'est insécurisant. Mais bon, quand il y a des règles, elles ne sont pas toujours respectées, ce qui est peut-être une preuve que nous avons du mal à obéir. Les règles, les limites sont bonnes, elles nous sécurisent. Et il y a autre chose qui fait que ces ordres, ces directives sont le bonheur du psalmiste. La lecture qui a précédé, comme celle des versets qui suivent, nous explique ce que l'auteur voit de bon dans les ordres de Dieu. Et ce qu'il voit de bon, c'est qu'il y a un avantage pour celui qui prend ce chemin. Encore une fois, quelques exemples, au verset 1 et 2, ils sont heureux, on en a déjà parlé, ils sont heureux parce qu'ils ne commettent aucune injustice, mais qu'ils vivent comme Dieu le demande. Au verset 6, l'auteur dit « Je n'éprouve aucune honte, je suis libéré de la honte parce que je suis ses commandements. » Il exprime sa satisfaction de pouvoir garder une conduite pure au verset 9. « Suivre tes ordres », verset 14, « me réjouit comme si j'avais une immense richesse. » Il se sent riche de cela. Donc, il voit des bénéfices concrets, certainement dans des situations qu'il a vécues. Mais surtout, le désir qu'il a de suivre Dieu transparaît tout au long du psaume, désir pour plaire à Dieu. Et je crois que la meilleure preuve de l'avantage qu'on a à suivre la parole de Dieu, à suivre sa loi, c'est l'expérience. C'est en prenant cette voie qu'on se rend compte qu'on n'est pas pris en défaut, qu'on n'a aucune honte, qu'on garde notre conduite pure et qu'on connaît la joie parce qu'on est bien avec Dieu et bien avec les hommes. Voilà le chemin que nous montre le psalmiste, le chemin que nous montre ce psaume. Et la façon dont il le présente, c'est un chemin joyeux qui fait son bonheur, mais c'est aussi un chemin difficile, et l'auteur ne le cache pas. Il parle de cette difficulté, de ce qu'il a. Il souhaite pouvoir réussir, que je sache me conduire comme tu le demandes, verset 5. Il s'interroge, comment garder une conduite pure? C'est pas facile, vais-je y arriver? Et puis, il constate qu'il ne peut pas le faire tout seul. Verset 10, ne me laisse pas dévier de ce que tu as commandé. Ou verset 12, enseigne-moi ta volonté. L'auteur, malgré sa bonne volonté, son enthousiasme, remarque qu'il a besoin de Dieu pour l'aider à suivre sa volonté. Et ça nous pose la question, qui peut y parvenir? Qui peut parvenir à suivre la volonté de Dieu, à suivre sa loi? Normalement, si on a traîné à l'église depuis un moment, si on a traîné à l'école du dimanche, on sait que quand il y a une question de ce type, il y a une bonne réponse. C'est Jésus. Jésus est l'homme qui a pu suivre la loi de Dieu. C'est l'homme parfait. Il a fait ce que Dieu aimait. Alors, les évangiles ne nous le montrent pas en train de lire la Bible pour son culte personnel, mais quand même, les évangiles nous montrent la grande connaissance qu'il avait de la Bible. On le voit la citer pour enseigner. Les évangiles témoignent de ce que personne ne parlait avec son autorité, personne ne la connaissait comme lui. À 12 ans déjà dans le temple, il étonne par sa connaissance et sa sagesse. On le voit l'expliquer. Vous vous souvenez peut-être dans le sermon sur la montagne, Jésus qui dit « On vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a dit ces commandements, mais moi je vous en explique l'esprit. Comment aller plus loin ?» Il explique le vrai sens. Et on le voit aussi citer la Bible pour contredire ceux qui la citent, qui l'utilisent mal, soit pour essayer de le piéger, soit pour essayer de mettre un joug sur le peuple en leur disant ce qu'il a à faire. Et Jésus vient citer la Bible pour montrer que ce n'est pas ce qu'elle demande. On le voit, il connaissait la Bible. On voit aussi Jésus s'isoler régulièrement. On le sait qu'il priait. Mais je crois que dans ces temps, il méditait aussi la parole. L'introduction du psaume disait que celui qui lit la parole est heureux. Jésus était-il heureux au sens de l'introduction que nous avons lue? Assurément, son attitude a plu à Dieu. Est-ce qu'il a plu aux hommes? Est-ce qu'il était bien avec les hommes? On peut le discuter. Et c'est plus mitigé puisqu'il a été condamné à mort, mais je crois que oui. D'ailleurs, que lui a-t-on reproché? De guérir les malades? D'accueillir tous ceux qui venaient à lui? D'enseigner des paroles qui donnent la vie éternelle? S'il a été condamné à mort, s'il a été tué, c'est parce qu'il dérangeait ceux qui vivaient de manière injuste. Alors on voit bien comment ont agi les chefs jaloux. Mais je crois que nous tous, nous n'aimons pas quand quelqu'un nous fait remarquer que notre comportement n'est pas complètement cohérent, surtout quand c'est quelqu'un qui a raison. Il venait mettre en lumière, Jésus venait mettre en lumière ce que faisaient les hommes. Et s'il a été tué, justice lui a été rendue. Vous vous souvenez peut-être du texte sur lequel nous avions prêché, que j'avais lu la dernière fois que j'avais prêché, le Jean 16, où il parle de justice. Mais il y a aussi ce texte de Philippiens que j'aime tant, qui dit que Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus a été jugé et reconnu juste. Mais même dans la vie qu'il a vécue, je crois qu'il était heureux parce qu'il connaissait sa mission et qu'il est allé au bout, malgré les difficultés, dans la paix. Et que cette paix est la preuve de ce qu'il savait, ce que Dieu attendait de lui. savoir ce que Dieu attend de nous. Eh bien, ça passe par ce qu'il nous dit. Ce qu'il nous dit dans sa parole. Comment ? Comment lire sa parole pour en tirer ce qui est bon pour nous, pour avoir le même enthousiasme que l'auteur du psaume ? Le psaume nous donne des pistes pour mettre en pratique cette lecture vivifiante. Déjà, il nous invite de prendre le temps de la méditation, de la recherche. J'étudie tes sages décisions, verset 7. Je veux réfléchir à ce que tu exiges, verset 15. On n'est pas dans l'immédiateté. La Bible n'est pas un catalogue de citations qui nous tire des différentes situations. C'est quelque chose qu'on prend le temps de réfléchir. Et dans ce psaume, on voit aussi l'apprentissage par cœur de certains passages. Dans mon cœur, je conserve ce que tu as dit, verset 11. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Apprendre, lire, relire, apprendre par cœur pour que, dans les situations difficiles, ces paroles bienfaisantes nous reviennent. Il y a une invitation aussi à la lire entièrement, complètement. Mes lèvres énumèrent, verset 12, toutes les décisions que tu as prononcées. Et en fait, ce qui est proposé là, ce qui est demandé là, ce n'est pas une lecture de la Bible, mais plus un chemin dans lequel on s'engage et qu'on n'arrête jamais. Heureux ceux qui te cherchent de tout leur cœur, verset 12. De tout leur cœur, et j'ai l'impression d'y lire de toute leur vie. De tout mon cœur, je te cherche, verset 10. Recherchez Dieu. Comme on cherche à connaître quelqu'un qu'on aime, comme on peut chercher à connaître son conjoint tout au long de la vie, passé avec lui. Je crois que la richesse de ce texte nous montre qu'il n'y a pas un moyen pour lire la Bible et pour la comprendre. Alors quand je dis qu'il n'y en a pas un moyen, mais plusieurs, je ne dis pas que chacun le sien, chacun trouve sa méthode, mais plutôt qu'il y a plein d'approches différentes et qu'on a tout à gagner à essayer le maximum de ces différentes approches pour tirer le maximum de choses différentes. Et peut-être, dans cet entre-deux, entre deux fêtes, avez-vous un peu de temps et peut-être pouvez-vous lire ce psaume lentement, le méditer, pour vous donner envie de le lire ou de le lire différemment. Et vous pouvez également lire en parallèle le bulletin. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait quelques pages où plusieurs partageaient leur pratique de la lecture de la Bible. Nous pouvons être stimulés comme ça de ce que chacun fait, chacun lit. Souvenons-nous que c'est quelque chose qui demande de la discipline, un effort. L'auteur ne le cache pas, qu'il ait besoin de respecter ses commandements avec soin. Il souhaite que je sache me conduire avec fermeté, avec application. Verset 5. Je m'appliquerai, promet-il. Verset 8. Il faut être prêt à s'y mettre et persévérer. Voilà pour ce temps autour de ce texte. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Dans ce temps d'entre-deux, entre deux années, c'est bientôt la période où nous aimons prendre de bonnes résolutions. C'est peut-être l'occasion de prendre des rendez-vous réguliers avec la Bible. Ce psaume vient nous dire combien c'est bon de le faire. Et nous sommes invités à suivre la voie du psalmiste et je crois la voie qu'a suivi Jésus. Nous avons dans ce texte des exemples pratiques, nous avons surtout dans ce texte un témoignage de l'amour de cette parole, basée sur l'expérience. Nous avons une invitation à essayer d'emprunter ce chemin pour connaître cet amour et pour mieux aimer Dieu, nous aussi. Amen.